Voilà, bonsoir à tous. Très heureux de vous accueillir pour cette deuxième conférence de cette année chez les Frères Mineurs Capucins. Pour ceux qui étaient déjà chez les Frères Mineurs il y a deux jours, je vous signale que nous passons d'un Éloi à un Élie ce soir. Voilà, il y a deux jours on parlait d'Éloi Leclerc, ce soir ça sera Élie Corton, mais il y a quelque chose au moins en commun, le fait qu'ils étaient tous les deux Frères Mineurs. Et puis le fait qu'aujourd'hui, il y a un éditeur qui les réunit tous les deux, c'est l'édition de Salvatore. Deux ouvrages, on parle de l'édition Salvatore. Alors nous avons la chance d'accueillir ce soir Anne-Marie Baron, qui va nous parler d'un livre dont elle n'est pas l'auteur. Anne-Marie Baron, pour qui se tient un peu au courant d'actualité des publications, c'est surtout, peut-être essentiellement, une spécialiste de Balzac. C'est la présidente des Amis.
De la
Société des Amis d'Honoré de Balzac. Elle a publié plusieurs ouvrages sur Balzac, dont un ouvrage qui vient de reparaître aux éditions Honoré Champion, un ouvrage intitulé « Balzac et la Bible ». C'est une lecture tout à fait originale de Balzac, de l'immense œuvre de Balzac, à partir de la Bible. Alors, ce n'est pas le thème de la conférence, mais j'espère que tout à l'heure, il y aura une petite question pour évoquer ce thème tout à fait intéressant et inhabituel, finalement, original, Balzac et la Bible. Voilà. Mais il se trouve que Anne-Marie Baron est également critique cinématographique. Hein, elle participe, on la trouve assez régulièrement, parfois elle nous téléphone, elle me dit « je reviens de Venise, de la Mostra » ou de... Enfin bref. Et c'est pas pour cela non plus qu'elle est là ce soir. Elle est là ce soir à cause de son grand-oncle. Son grand-oncle qui s'appelait Salvatore Attal. Salvatore Attal, dont le surnom était Sauter, est l'auteur en 1936 d'une première biographie, la première grande biographie sur Frère Élie. Voilà, celle de 1936, Frate Elia, la Compagno di San Francesco, parue à Rome en 1936. On l'a ici à la bibliothèque. Et ce livre, qui a connu une version augmentée en 1956, n'avait jamais été traduit en français. Or, par dévotion, peut-être pour son grand-oncle, elle nous l'expliquera tout à l'heure, qui lui-même a un parcours très original, eh bien, Anne-Marie a décidé, c'est comme ça qu'on a fait sa connaissance, a décidé de traduire le travail de son grand-oncle. Et ça donne cet ouvrage qui s'intitule « Frère Élie, compagnon de François d'Assise, biographie », donc qui vient de paraître aux éditions Salvatore. Vous l'avez traduit. Merci. Donc, on va en savoir davantage ce soir sur ce frère Élie, hein, sur ce, oui. Son compagnon méprisé, de François, et puis sur votre grand-oncle.
Et sur mon grand-oncle.
Hein, voilà, c'est ça. Merci en tout cas d'être parmi nous ce soir, de nous ouvrir comme ça sur des mondes totalement différents, inconnus. Encore qu'au niveau d'Élie, il y a une certaine actualité. Il y a l'année dernière ce film qui a eu un certain
succès. Oui, dont je vais parler aussi.
Hein, voilà, c'est ça. Merci à vous en tout cas d'être parmi nous ce soir. Je rappelle que vous êtes venu aussi travailler à la bibliothèque.
Oui. Et merci à vous de m'avoir accueilli pour travailler et de m'accueillir ce soir. Alors, la causerie que je vais faire entremêle. On n'entend pas ? Il marche le micro ? Ah oui, voilà, d'accord. Donc il faut l'approcher. Donc la causerie que je vais faire ce soir entremêle curieusement ma propre vie, celle de ma famille, et celle de François d'Assise et de son compagnon, Élie de Corton. En effet, depuis quelques années, je traduis les œuvres de ce grand-oncle italien, Salvatore Attal, dit Sauter, Sauter, sauveur en grec. Il a vécu de 1877 à 1967 et je l'ai bien connu. Alors nous allons tout de suite voir ses photos. Ça, c'est sa photo de militaire pendant la guerre de 14. Et la photo suivante est la photo du temps où je l'ai connu. Donc c'est lui qui est l'auteur de la biographie de Frère Élie, dont je vous présente cette traduction publiée aux éditions Salvatore. Alors vous allez me dire, c'est quand même drôle, Salvatore Attal, Salvatore. Ben, dans cette histoire, tout est providentiel. Je suis allée un jour au salon du livre et je suis tombée devant le stand des éditions Salvatore et j'ai dit ça serait drôle si mon livre était publié chez Salvatore. Je suis entrée, j'ai dit y a-t-il quelqu'un ici qui accepterait de me recevoir ? Alors il y a Michel Cole qui est venu et je lui ai raconté ma petite histoire. Je lui ai dit écoutez, c'est bien simple, comme mon grand-oncle s'appelle Salvatore, et je me suis dit que ça serait bien qu'il paraisse chez vous, parce que il m'a dit mais c'est une idée de génie, et il m'a dit je prends tout de suite, 5 minutes après c'était fait. C'est incroyable. Donc vous voyez, nous sommes dans la providence. Donc Salvatore Attal est né dans une famille juive de Livourne, celle de mon père qui était son neveu. Ma grand-mère, Vittoria Baron, née Attal, 1876-1957, dont voici la photo. Et je tiens vraiment beaucoup à ce qu'elle soit avec nous ce soir. Donc ma grand-mère, dont je porte le prénom, parce que moi je m'appelle pas Anne-Marie Baron, mais Anna Maria Vittoria en italien. Donc ma grand-mère m'a raconté pendant toute mon enfance les souvenirs de sa jeunesse auprès de ses 3 frères, Salvatore, Alberto et Dario, à Livourne, ville de grand prestige. Pendant au moins 2 siècles, les Juifs, arrivés peu après leur expulsion d'Espagne en 1492, comme dans toute la Méditerranée pour échapper à l'Inquisition, ont pu y développer les relations commerciales qu'ils avaient avec leur pays d'origine et les pays méditerranéens. Ils ont vécu particulièrement bien dans cette cité construite de toutes pièces dès 1577 à partir d'un petit port de pêche comme ville idéale par de grands architectes pour les Médicis, qui étaient les grands ducs de Toscane. En effet, les Médicis vivaient à Florence, mais avaient besoin d'un port. Et donc, ils se sont construits ce port. Ferdinand Ier de Médicis en fait un port franc et peuple la ville grâce à une série d'édits connus sous le nom de Costituzione Livornina. Il offre à tous les nouveaux émigrants portugais, alors je cite, hein, portugais, juifs, turcs et maures, donc il offre l'exemption d'impôts, certaines immunités, une complète liberté religieuse et le droit de pratiquer le commerce sans être astreint à vivre en ghetto. La ville va donc devenir la seule ville d'Italie sans ghetto. Intéressés par ces avantages, les juifs, essentiellement maranes, s'y installent. Leur nombre ne cesse de s'accroître jusqu'à atteindre 5340 en 1809. Et ils développent là un style de vie particulier, fait de raffinement et de goût pour les arts et la culture. De plus, les œuvres de bienfaisance font de cette communauté un modèle d'assistance sociale aux déshérités. Mon grand-oncle Salvatore a été l'élève du philosophe et kabbaliste Elie Ben Amoseg, dont je voudrais que nous voyons la photo et son principal ouvrage, Israël et l'humanité. Il a été également le familier de plusieurs papes, Pie X, Benoît XV, Pie XI, Pie XII et Jean XXIII. Ces papes, en effet, le consultaient sur des questions d'exégèse biblique. Chaque fois qu'ils avaient un problème, ils lui écrivaient. Il a entretenu une correspondance suivie, que j'ai pu consulter au Grand Couvent d'Assises, avec le père Michele Todde, ce prêtre sarde, longtemps sacristain et confesseur dans la paroisse de Sainte-Marguerite à Assises, a reçu un diplôme de reconnaissance pour avoir sauvé de nombreux juifs et réfugiés pendant la guerre. Il est mort au couvent à l'âge de 90 ans, 5 ans après son ami Salvatore, avec qui il a correspondu toute sa vie. Leur correspondance est passionnante. Je vous cite un exemple au hasard. Une lettre dans laquelle Sauter préconise de supprimer l'adjectif perfide de l'expression juif perfide dans l'oraison du Vendredi Saint. Et cette lettre semble avoir été décisive et montre qu'il a probablement joué un rôle dans les modifications apportées à la liturgie par le Concile Vatican II. Donc, vous voyez, un homme quand même qui a joué un rôle important, qui a été très proche des franciscains, très proche des papes, et qui a probablement influé sur Vatican II. Sauter s'est converti en 1947 et est devenu tertiaire franciscain. Vous voyez que ce frère cadet de ma grand-mère est un personnage complexe et paradoxal. J'ai retracé sa biographie dans son essai sur la Kabbale, publié à Florence en 1908 et intitulé « Ésotérisme biblique », dont j'ai donné l'édition critique en français chez L'Âge d'Homme en 2015. Il est ici d'ailleurs, il y en a quelques exemplaires ici. En effet, il avait le sentiment très moderne d'une évolution positive des rapports entre judaïsme et christianisme. Il a donc entrepris une œuvre historique et théologique ambitieuse par laquelle il comptait convaincre l'Église de prendre en compte l'importance centrale de son héritage juif. Très en avance sur son temps, il a publié à Turin en 1918 une grande synthèse intitulée « La religione del Cristo ». Ses monographies franciscaines, et en particulier son Saint-François d'Assise, publié pendant la Première Guerre mondiale, l'une des premières biographies vraiment historiques du saint et non hagiographique, font autorité. J'ai d'abord pensé à traduire ce beau texte, mais j'ai reculé parce que je me suis dit qu'il y avait tellement de biographies de François d'Assise qu'il valait mieux traduire autre chose. Et alors là, encore quelque chose de providentiel, j'ai vu le beau film franco-italien de Renaud Feli et Arnaud Louvet intitulé « L'ami, François d'Assise et ses frères », réalisé en 2016 avec Jérémy Régnier dans le rôle d'Élie, narrateur de l'intrigue, et Elio Germano dans celui de François d'Assise. Alors nous allons voir la bande-annonce de ce film.
Tu sais ce qu'ils font aux hérétiques. Un jour ils vont nous chasser d'ici, tu verras. Tant que tu n'auras pas écrit une règle qui nous protège, tout ce qu'on a construit sera perdu.
Vous croyez que tout ça s'est construit sans peine?
Je ne peux pas le forcer à écrire.
Alors faites-le pour vous.
Parfois je vois que le frère se divise.
Tu veux changer notre vie, il faut le changer.
L'idéal de François n'est pas de celui-là. Quel temps faudrait qu'on l'ait compris?
Qui croit que nous en aurons le temps?
La vie que François nous offre est un rêve magnifique. Et pour le partager, il faut que vous rendiez possible.
Voilà, donc je vois ce film et à ce moment-là, je me rends compte que la seule biographie moderne et scientifique de Frère Élie était celle qu'avait écrite mon grand-oncle en 1936. Et c'est là que j'ai pris ma décision, contre l'avis d'ailleurs de toute ma famille, qui trouvait que c'était pas du tout intéressant, de traduire ce texte beaucoup plus rare que la vie de François d'Assise. Et j'ai commencé ma recherche, d'abord ici, dans la bibliothèque de ce couvent, où Pierre Moracchini m'a accueilli avec une grande générosité. J'y ai trouvé beaucoup de textes intéressants. Puis, je suis allée sur place à Cortone, où j'ai passé quelques jours en septembre 2017. Une véritable aventure spirituelle, puisque j'ai été logée dans la maison des visiteurs de l'église Saint-François et que j'ai pu visiter les fameuses celle où François allait se reposer et se recueillir. En voici quelques photos. Ah non, c'est pas ça.
Encore pas.
On reviendra après là-dessus, c'est pas grave. Voilà, voilà les celle. Alors vous voyez ce paysage magnifique, hein, c'est de toute beauté. Encore d'autres photos s'il vous plaît. Encore. Encore. Alors là on approche de la cellule de François. Et voilà la cellule de François. Donc il se tenait en bas toute la journée. Quand il avait envie de prendre un peu d'air, il sortait sur la petite terrasse. Voilà.
C'est l'église de
Cortone. Non, ça c'est l'église Sainte-Marguerite que j'ai prise exprès pour en hommage à la fille de Pierre Moracchini, qui s'appelle Marguerite. Mais en réalité, c'est l'église Saint-François, construite par Élie lui-même, qui m'a révélé le plus de trésors. Parce que, est-ce qu'on peut revenir aux photos qu'on avait vues avant? Parce qu'en fait, on connaissait très peu de choses, enfin très peu d'images de Élie. Il y a la fresque de Giotto, hein, celle-ci, où on le voit au chevet de François mourant. Et puis il y a la gravure suivante. Bon, alors là, c'est assez caractéristique, il y a la barbe et il y a le fameux bonnet arménien dans lequel on le décrit toujours. Mais c'est tout ce qu'on avait comme image. Et donc, là, on revient à l'église Saint-François, c'est-à-dire après les celle. Donc, c'est l'église Saint-François. Voilà, après, voilà, celle-ci. C'est cette église, construite par Élie lui-même, qui m'a révélé le plus de trésors. En effet, j'y ai vu, alors vous allez voir, parce qu'il est enterré, c'est là qu'il est enterré, hein, Élie de Cortone. Alors, si vous voulez, le paradoxe est le suivant, c'est que lui qui a fait construire une basilique absolument immense, gigantesque, pour son ami François, est enterré de façon invisible dans une petite église minuscule, qui est celle-ci. Et alors nous allons voir le panneau suivant et vous allez voir son... Alors oui, là c'est ce que je voyais de ma fenêtre quand j'étais dans le couvent des visiteurs. Et voilà sa plaque tombale. Qui riposa frate Elia da Cortona. Ici repose frère Elie de Cortone, compagnon de François d'Assise, son vicaire et ministre général de l'ordre, constructeur de la basilique de Saint-François d'Assise et celui que François avait choisi comme mère pour lui et comme père pour les autres frères. C'est une magnifique, magnifique plaque tombale. Alors, on peut peut-être avancer pour voir le...
C'est Saint-François de Cortone. Hein,
pardon ?
C'est Saint-François de Cortone.
C'est Saint-François de Cortone, oui.
C'est pas Saint-François d'Assise.
Ah non, c'est pas Saint-François d'Assise. Donc, alors voici le buste en bronze de Élie. Et, alors surtout, là, il y a un document extraordinaire. C'est le buste qui a été reconstitué d'après son ADN, selon les moyens les plus modernes de la médecine, moderne. Le suivant. Et voilà, on a l'impression d'avoir un personnage vivant, vous voyez. Donc voilà à quoi ressemblait frère Élie. Alors c'est maintenant de lui que je vais vous parler. Après François, Élie, dit Élie de Cortone, né à Assise en 1180 et mort à Cortone en 1253, est probablement le personnage le plus important, mais le plus méconnu, de l'histoire des débuts de l'ordre franciscain. Compagnon de François depuis l'enfance, il a été son vicaire de 1221 à 1227, sous son contrôle jusqu'en 1226. Puis il a été élu second général de l'ordre en 1232 et l'est resté jusqu'en 1239. C'est lui qui a organisé le mouvement franciscain, contribuant à créer, avec François et le cardinal Ugolin, futur pape Grégoire IX, l'ordre dont il a été pendant une vingtaine d'années le guide bienveillant et le dirigeant énergique. Il y a différentes façons de concevoir l'histoire. Certains historiens ne travaillent que sur les documents et s'interdisent toute hypothèse, toute reconstruction. Mais cette rigueur indispensable n'empêche pas de penser, comme mon oncle Salvatore Attal, que, et je le cite, « le devoir de l'historien n'est pas simplement de faire la liste des documents et d'en examiner l'authenticité. La pure vérité historique est un élément froid et inerte. Il faut qu'il soit éclairé, intégré et pour ainsi dire rendu vivant par ce qui se trouve aussi dans les documents, c'est-à-dire le rayonnement de l'âme, la lumière de l'esprit, qui révèle la personnalité, le fond invisible du personnage. Le véritable historien doit être aussi un artiste, capable de ranimer et de rendre vivant le passé. » C'est ce qu'il a essayé de faire dans ce livre. Et il y a réussi, me semble-t-il, en nous restituant la figure de cet homme complexe, controversé, qu'il entend réhabiliter, anticipant ainsi sur la tendance de la recherche actuelle. Il remonte à la jeunesse studieuse et méditative du compagnon de François, alors même que François était encore un jeune homme dissipé, c'est-à-dire avant même que François ne batte sa coulpe. Son amitié et son dévouement l'ont toujours accompagné, et leurs caractères si différents se sont admirablement complétés. François admire en Élie, selon Renan, les qualités qui lui font défaut. Tous deux se consacrent à une vie pauvre et méditative, entourés de compagnons de route vivant de la charité publique. Seulement le problème, c'est qu'un jour, ses fidèles se sont multipliés de la douzaine du début à 5 ou 10 000. Alors là, du coup, ça faisait désordre. François s'est trouvé prié d'abord par le pape Honorius III de créer un ordre pour canaliser cette force errante. François accepte, mais la première règle, écrite par lui seul, est refusée. Et le cardinal Ugolin demande à Élie de l'aider à en écrire une autre. C'est ainsi qu'a été rédigé, par un très douloureux compromis, lourd de conséquences, la fameuse règle de l'ordre qui organise définitivement la vie des frères. Sauter a compris et montré le caractère déterminant de l'action intellectuelle et organisatrice d'Élie. Sans ces qualités, l'ordre franciscain n'existerait probablement pas. Il souligne le rôle capital et trop peu connu joué auprès du saint par la forte personnalité d'Élie, conscient de la nécessité de créer un ordre, alors que François, qui est laïque et tourné vers le peuple, voué à la prière et à l'imitation du Christ, n'a pas du tout l'intention de créer un ordre. Parce que la spécificité franciscaine est d'être la seule spiritualité qui n'aspire pas à créer une institution. C'est Élie qui a incité le Poverello à organiser un ordre, à passer du vagabondage dont l'accusait le pape Honorius III à la sédentarité des couvents et de la mendicité à une vie plus supportable, de l'érémitisme des cabanes à l'organisation de la basilique et du sacré couvent. Car enfin, comment soulager la misère en restant dans la misère ? Ne faut-il pas disposer d'un minimum de moyens pour aider les pauvres ? Sauter souligne ce paradoxe fondateur, cette opposition si féconde entre le rêve et la réalité, l'idéal et sa matérialisation, l'intuition et l'institution. L'infatigable énergie d'Élie a fait l'ordre, l'a rendu visible et l'a imposé au monde, avec l'accord de François, qui, loin d'être en conflit avec lui ou avec l'Église, comme on l'a souvent dit, a compris la nécessité de son concours et de celui du pape pour y arriver. C'est ce personnage sur lequel les documents spécifiques sont rares. C'est sur cette existence hors du commun que ce livre jette la lumière en éclairant du même coup des questions importantes, comme celle des liens administratifs et financiers qui se sont créés entre les franciscains et la papauté. Car l'ordre, ça, il y a un vrai problème. L'ordre était voué à la pauvreté. Il ne pouvait donc posséder que l'usufruit des biens qu'on lui donnait, parce qu'il recevait beaucoup de cadeaux. Et donc, ce sont les papes qui avaient la propriété de leurs biens. L'acte notarié de donation du terrain puis du bâtiment de la basilique en est le meilleur exemple. La prise de possession officielle advient avec la bulle Recolentes Qualiter du 22 octobre 1229, où l'Église déclare la basilique en construction, propriété apostolique, en la mettant sous l'immédiate tutelle du Saint-Siège. En vertu de ce principe, des administrateurs de l'Église vont donc être chargés dans les différentes provinces de procéder sous l'autorité du pape à tous les actes concernant l'usufruit. L'ordre est ainsi étroitement lié à la papauté depuis sa création, ce qui était la condition même de son existence. Le philosophe Giorgio Agamben a étudié à fond cette question juridique et philosophique dans son livre « La très haute pauvreté, règles et formes de vie ». Et curieusement, dans ce livre que j'ai lu attentivement, il ne prononce jamais le nom d'Élie. Très nombreux sont les livres dans lesquels on ne prononce jamais le nom d'Élie. Garant des stigmates, gardien respectueux de la mémoire de François, qu'il a servi jusqu'au bout et dont il tient à diffuser le message, Élie a joué un rôle clé dans le développement du mouvement franciscain. De plus, dans ce XIIIe siècle caractérisé par des changements sociaux, politiques, techniques et environnementaux si rapides qu'il évoque presque le nôtre, le génie politique et administratif d'Élie en fait un homme très moderne, entièrement dévoué à la mission sacrée qu'il s'est fixée et constamment soucieux de travailler à son accomplissement. Alors que le charisme de François, c'est la prière, son charisme à lui se manifeste dans l'action. Malheureusement, il va se trouver impliqué dans une violente lutte avec les Zelanti, c'est-à-dire les frères qui veulent suivre à la lettre les pratiques de spiritualité, de pauvreté et d'errance de François, et qui l'accusent de trahir l'idéal de l'ordre. Élie se trouve donc en conflit non seulement avec ses frères de l'ordre, mais aussi avec le pape, son ami de toujours, l'ex-Hugolin devenu Grégoire IX, qui le dépose une première fois, contraint par les frères zélés, conjurés contre Élie, qui ont raison des résistances du pontife, probablement à cause de son grand âge. Il a quand même 98 ans, le pape. Hein. Donc le pape l'excommunie une première fois en 1239 à la suite d'un malentendu. Et là, l'histoire est vraiment tout à fait extraordinaire. Le pape avait demandé à Élie de lui envoyer une lettre pour justifier ses raisons et pour lui expliquer sa conduite. Élie écrit cette lettre, une longue lettre très détaillée, et pour être sûr qu'elle arrive au pape, il la confie à Jean de Parme, son successeur, avec qui il était très ami, et il lui demande d'aller la porter en main propre au pape. Or, devinez ce qui se passe, Jean de Parme est tué et meurt en route. Et la lettre disparaît. Alors, pour vous donner un exemple de la méthode historique de mon grand-oncle, il dit « L'absence de cette lettre est elle-même un indice. » Parce que, tout de même, une lettre qui disparaît, eh bien, c'est déjà une preuve. Donc, là, il y a eu quelque chose... Enfin, il y a eu un concours de circonstances tellement malheureux qu'on ne peut même pas imaginer que c'est par hasard. Donc, il l'excommunie une première fois en 1239. Et en juin 1243, tout de même, Grégoire IX est mort, hein, le conclave élit le cardinal Sinibaldo Fieschi qui prend le nom d'Innocent IV. Et là, les choses semblent d'abord s'arranger entre le pape et l'empereur, qui était aussi l'ami d'Élie, parce que Élie était aussi ami avec le pape qu'avec l'empereur. Et il était allé se réfugier auprès de l'empereur. Malheureusement, au concile de Lyon, l'empereur Frédéric II est frappé d'anathème et d'excommunication et démis du pouvoir impérial par le pape. Élie prend son parti et se trouve, lui aussi, pour la seconde fois, excommunié. Vous voyez quelle vie tragique, quand même. Ce texte de 1936 fait encore autorité, par son parti pris courageux et par sa riche documentation, malgré l'avancement de la recherche et les découvertes récentes de nouveaux manuscrits franciscains qui tous en confirme les analyses. Son intérêt est de mettre en lumière autant que possible, étant donné la rareté des documents spécifiques sur la vie d'Élie, si étroitement liés à celle de saint François et à la naissance de l'ordre, des points fondamentaux, à la fois historiques, biographiques et spirituels, de cette existence hors du commun. Mon grand-oncle a eu accès aux documents pontificaux, aux documents impériaux, à toutes les correspondances. Il a fait vraiment une œuvre d'historien majeur. Donc, il retrace de façon très émouvante la vie de François, les derniers chapitres auxquels il a assisté et ses derniers jours si douloureux, aveugles, avec ses souffrances terribles, et la façon dont Élie a accompagné ses souffrances et dont le Saint lui a transmis son esprit qui n'a cessé d'inspirer les décisions du vicaire et du ministre. Mais ce livre éclaire aussi la question de la sixième croisade et des liens qui se sont créés entre les franciscains et les musulmans. Il ne faut pas oublier qu'Élie a été le premier missionnaire en Orient. C'est là qu'il a préparé l'arrivée de François et qu'il a réussi à le faire accueillir comme un saint par les sultans d'Égypte et du Maroc, dont il a obtenu un écrit impérial, accordant à lui et à ses frères le droit d'aller partout dans les possessions sarrasines sans payer de tribut. Même si l'évangélisation a fini par être mal perçue, les communautés franciscaines ont été depuis très présentes en Orient, ça c'est capital. Alors, des portraits très précis rendent toute cette histoire internationale très vivante. Alors d'une part, le cardinal Hugolin, juriste, expert, grand codificateur, si soucieux de la grandeur de l'Église, a mesuré mieux que personne l'importance de l'apport que le génie du Poverello constituait pour elle. Et il a tenu à donner forme à l'informe. Devenu Grégoire IX, et alors nous allons voir à quoi ressemblait Grégoire IX. Ah non, ça c'est encore Élie. Ça c'est un bas-relief qui représente Élie avec la relique de la Sainte Croix, la plus importante relique jamais connue de la Sainte Croix qui lui a été donnée par l'empereur. Donc vous voyez qu'il n'était pas allé auprès de l'empereur pour rien quand même. Hein. Ensuite, alors voilà, voilà Grégoire IX. Donc ce Grégoire IX a été un souverain absolu, intransigeant, très attaché à François, qu'il a canonisé comme Antoine de Padoue, mais aussi capable d'excommunier l'empereur et Élie. C'était quand même une personnalité redoutable. D'autre part, en face de lui, Frédéric II de Hohenstaufen. Alors, on peut le voir. Alors, lui, empereur d'Allemagne, d'une rare autorité morale, précurseur de l'État moderne, dominateur et centralisateur, qui a mis fin au système féodal, qui a été un grand souverain et le mécène de tous les arts et les sciences de son temps. Élie a compris la dimension de ces deux personnages qui étaient en train de se disputer l'Europe. Et il a tout fait, en très bon diplomate, il a tout tenté pour mettre un terme aux hostilités entre ces deux grands hommes qui dominaient leur siècle. Et aussi, encore une chose très moderne, pour réconcilier les églises grecques et latines, dont il trouvait la séparation absurde, encore une chose d'une actualité brûlante. Le tout sans résultat, mais avec des conséquences fâcheuses sur sa carrière. Il a été accusé de cupidité, d'orgueil, d'arrogance et de tous les forfaits par ses frères même. Ulcéré, il est allé se réfugier en Sicile auprès de Frédéric II, qui était à la fois empereur de Germanie et roi de Sicile. Et c'est là qu'il se trouve excommunié, encore une fois, en même temps que lui. Cette exclusion de l'Église et ce conflit politique expliquent le relatif oubli et le discrédit où est tombé frère Élie, ses biographes anciens et modernes ne l'ayant pas ménagé. Et cela justifie l'intérêt que Sauterre lui porte et son désir de réparer une injustice vis-à-vis d'un homme exceptionnel, à la fois organisateur, créateur d'une foule de couvents et surtout initiateur et auteur du projet de la basilique et de l'église d'Assise, dont l'histoire lui attribue entièrement le plan, la réalisation et la décoration. Et on sait que ces bâtiments sont célèbres pour leur architecture, pour les fresques de Giotto et les œuvres de si nombreux artistes comme Cimabue. L'acharnement avec lequel fut persécutée par la suite la mémoire de frère Élie a détruit tous les documents qui attestent de la force de son esprit et de sa prodigieuse activité. Mais là où les écrits font défaut, dit Sauterre, reste la pierre, témoin indestructible, mais aussi ce livre dans lequel Salvatore Attal défend Élie avec la conviction qu'il y va de l'objectivité et de la justice, d'où le ton passionné de ce portrait en action qui en met en valeur l'impeccable documentation historique. Et maintenant le film, dont les photos que nous allons voir, montre l'actualité de cette figure si longtemps oubliée et lui rend la vie. Il ne reste plus à attendre que sa canonisation après l'excommunication. Il y a une autre photo. Voilà. Je vous remercie.